Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 160e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je suis Maxime Cogny car Axel Capron a droit à quelques jours de vacances. Nous sommes le lundi 15 avril, il est 17h20 et on va parler voile olympique car on connaît désormais le nom des 14 marins, 7 garçons, 7 filles, parité parfaite, qui composeront l'équipe de France aux Jeux de Paris 2024. Une équipe qui a été officiellement présentée à la presse ce lundi à Marseille sur le site des épreuves olympiques. Nos invités du jour sont justement à Marseille. Le premier qui a été directeur de l'équipe de France est aujourd'hui directeur technique national de la Fédération française de voile. Il s'agit de Guillaume Chiellino. Bonjour Guillaume.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et le deuxième invité à vos côtés, médaillé de bronze de Fine au JO de Londres en 2012. Il vient régulièrement parler voile olympique dans Pause Report et sera par ailleurs consultant voile sur France Télé pendant les Jeux. Il s'agit de Jonathan Laubert. Bonjour John.
Bonjour à tous.
Vous êtes bien installés messieurs, tout va bien ?
Impeccable.
Face à la rade sud de Marseille.
Face à la rade sud de Marseille, justement, qui sera au cœur des débats dans les minutes qui viennent. Messieurs, avant de vous donner la parole, petit rappel sur les épreuves au programme de ces JO de Paris 2024. Elles se disputeront du 28 juillet au 8 août à Marseille et seront au nombre de 10 épreuves, 4 masculines, 4 féminines et 2 mixtes pour la sélection française dévoilée ce lundi, ont été retenues. Hélène Noesmoen, Nicolas Gonard en planche à voile avec U-Foil, c'est un nouveau support au jeu. Autre nouveau support, le kite foil, les deux sélectionnés sont Lauriane Nolo et Axel Mazella. Eux seront en double Camille Lecointre, Jérémy Mion en 4,70. En double mixte aussi Louberto Mieux, Tim Mourniac en Acra 17. Pour le dériveur, l'ILCA 6, anciennement laser radial chez les femmes, c'est Louise Cervera qui représentera la France, toujours en dériveur, ce sera Jean-Baptiste Bernaz, et pour le 49er, Erwan Fischer, Clément Pékin seront en duo chez les filles, on retrouvera l'équipage Charline Picon, Sarah Steyert. Je parle sous votre contrôle, messieurs Guillaume Chiellino, notamment, tout va bien, la liste est complète. C'est la crème de la crème, parce qu'on rappelle qu'au JO, contrairement à un championnat du monde, il ne peut pas y avoir plusieurs Français en lice dans chacune des disciplines. La crème de la crème, donc.
Eh oui, c'est toute la difficulté pour ceux et celles qui sont pas retenus. C'est que dans notre sport, malheureusement, il y en a un seul qui va aux Jeux Olympiques. Si on devait citer un exemple, celui qui me vient en tête, c'est les kites féminins. Ou au dernier championnat d'Europe, qui était un championnat d'Europe open, donc en plus des Européens, il y avait des nations étrangères à l'Europe qui étaient présentes. En filles, c'est 3 Françaises qui ont fait première, deuxième et troisième. Et malheureusement, pour elles, on pouvait en choisir qu'une seule. Il n'y a qu'une seule Française, Lauriane Nolo, qui participera au jeu. Donc c'est vrai que c'est cruel pour Jessie et Poema qui ont pas été retenues, mais voilà, c'est la règle de notre sport.
C'est la règle, ça veut dire qu'il a fallu faire des choix, on y reviendra justement. Mais si on fait un petit tour, démarrons par les derniers non connus, Louberto Mieux, Tim Mourniac, ils ont pris le dessus sur le duo Billy Besson, Noah Ancienne. Ils ont terminé 4e lors de l'étape de la Coupe du Monde de Palma il y a quelques jours. Ils reviennent de loin quand même avec la blessure au genou justement de Louberto Mieux l'année dernière, les croisés, ménisques touchés. Ils sont là malgré tout, ça va tenir ?
Ah oui, ça va tenir. Lou est revenue plus forte que avant sa blessure. Ça a été effectivement une épreuve, mais ça nous a montré d'une part la détermination de Lou et de Tim à revenir au meilleur niveau, et puis aussi toute l'expertise de notre cellule médicale, paramédicale, médecin kiné et préparateur physique qui ont vraiment bossé en étroite collaboration avec l'équipage. Et on a eu aussi le renfort d'Aloïse Retornaz que je veux d'une part remercier, mais également félicité pour sa très belle performance, puisqu'avec Tim, ils ont fait 8e du championnat d'Europe qui s'est couru à Villamora au mois de novembre, et ça a permis à Tim de naviguer, de continuer à naviguer à très haut niveau. Et Lou était toujours au contact de l'équipage, et elle a énormément bossé pour revenir vraiment en pleine forme fin janvier.
John, ça rappelle des souvenirs, ces moments de l'annonce de la sélection ?
Oui, bien sûr, c'est toujours un moment super important dans la carrière d'un sportif. On attend ça avec impatience. On sait qu'on travaille dur pendant 4 ans pour ça, mais ce n'est qu'une étape. Je pense que Guillaume le rappellera très bien. Maintenant, ils sont tous focalisés sur le vrai objectif qui est les Jeux cet été.
Alors les Jeux cet été, on continue notre tour d'horizon, notre tour de l'équipe de France, justement, Lauriane Nolot en kitefoil, marin de l'année 2023, récente championne d'Europe, une sudiste, elle est varoise, et le kite c'était pour le loisir à l'origine, hein. Pour elle c'était plutôt l'équitation, son sport de prédilection, et c'est elle qui est en pôle pour une médaille d'or, on peut dire les choses comme ça, messieurs ?
Ah oui, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. En tout cas, c'est pas volé. L'année dernière, il y a qu'une seule compétition qu'elle n'a pas gagnée. Toutes les compétitions auxquelles elle a pris part, et notamment, retenons simplement le test event, donc la répétition générale des Jeux Olympiques qui a eu lieu sur Splendo Marseillais du 9 au 16 juillet 2023, et puis le championnat du monde qui a eu lieu quelques semaines plus tard. En Hollande, elle a gagné brillamment ces deux épreuves majeures.
Votre avis, John, ça rajoute de la pression. On aura l'occasion d'y revenir pour elle, d'avoir ce statut-là, question habituelle qu'on pose aux sportifs avant une compétition comme celle-là.
Oui, effectivement, c'est sûr qu'elle a la pression, mais bon, pour avoir échangé un petit peu avec elle, j'ai vraiment cette sensation qu'elle s'amuse et qu'elle prend vraiment chaque journée comme un jeu. Et je pense qu'elle est dans une dynamique très positive. Donc, je pense qu'elle clairement, elle fait partie des archi-favorites, mais elle a toutes les cartes en main pour pouvoir performer cet été.
Autre varois, messieurs, toujours en kite, c'est Axel Mazella. Même quand le kite a été retenu pour les Jeux, il ne pensait pas que ça pourrait être lui un jour. C'est ce qu'il vous a dit, Guillaume ?
Il me l'a pas dit comme ça, mais ses résultats ont rapidement parlé pour lui. Donc, il a rapidement pris ce rôle de leader de notre équipe de France. À nouveau, si je regarde les résultats 2023, Axel gagne le test event et puis fait troisième au championnat du monde et premier français. Il a un concurrent impressionnant. C'est le Singapourien qui est jeune et qui gagne énormément de compétitions. Il a gagné le dernier championnat d'Europe et Axel a pris la deuxième place. Bon, techniquement, Axel a été champion d'Europe puisqu'un Singapourien ne peut pas être champion d'Europe. Mais voilà, cet adversaire est redoutable. Mais Axel, c'est vraiment un très gros bosseur. Maintenant, comme on pourra le dire pour les 10 séries, hein, aucune médaille, y compris celle de Lauriane, n'est faite. Hein. Ça, c'est très, très important, même si on a des objectifs ambitieux. Chaque médaille est un combat, il faut la faire, il faut aller la chercher. Et John pourra témoigner de ce combat qu'il faut mener jusqu'à la dernière seconde, à la dernière course. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, il y a rien qui est fait à l'avance, mais Axel, c'est un très grand combattant. Et je pense que cet été, il peut nous ramener un très beau résultat.
En 49er, Erwan Fischer, Clément Pékin, deux anciens adversaires de déçus des Jeux de Tokyo, non sélectionnés. Ce sont les premiers champions du monde français de l'histoire de la discipline.
Ah oui, ça faisait un quart de siècle que nous tournions autour. Il y avait eu des quatrièmes places, deux. Il y avait eu une troisième place, une deuxième place qui remontait pour Mathieu Frey et Noé Delpech à 2018 déjà. Et puis là, cette performance spectaculaire d'Erwan et Clément. J'ai la chance de les avoir vus pendant ce championnat du monde. Alors je dis un petit peu en plaisantant, mais c'est la réalité, qu'ils allaient un tout petit peu plus vite que le Hollandais, qui allait beaucoup plus vite que tous ses adversaires. Le Hollandais était oui, au passé, triple champion du monde sortant, en l'occurrence avec deux équipiers différents avant ce championnat. Il avait gagné trois fois d'affilée le championnat du monde, et Erwan et Clément ont écrasé la concurrence. Ils étaient impressionnants pendant ce championnat.
John, c'est simple ou pas de passer à concurrent, adversaire direct, à faire équipe ?
Non, c'est sûr que ça doit être quelque chose d'assez particulier à vivre, mais bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont été très très solides, notamment sur une épreuve de référence comme un championnat du monde. En plus, il y avait l'enjeu de la qualification. Moi, je trouve que ça, c'est de très bon augure pour montrer leur capacité à se dépasser lors des grands événements. Et en tout cas, je pense que c'est un équipage sur lequel il va falloir garder un œil, parce qu'il va se passer des choses très intéressantes pour eux, je pense, pendant les Jeux.
Sur le 49er, je veux bien rajouter aussi que, pareil, en termes de choix, on a Lucas Rual et Émile Amoros qui représentaient la France aux derniers Jeux Olympiques, qui venaient d'être champion d'Europe, donc champion d'Europe au mois de novembre. Et puis là, un autre équipage français, Erwan et Clément, champion du monde. C'est une concurrence féroce. Et là encore, nouvel exemple où, malheureusement pour Lucas et Emile, on n'en choisit qu'un seul. Et voilà, la performance des Erwan et Clément était sans appel. Mais c'est important aujourd'hui de rappeler qu'on a aussi Lucas et Emile qui ont fait une performance incroyable au championnat d'Europe.
Il n'en reste qu'un seul, un seul équipage pour les filles également, 49er FX en double. Les deux mamas, c'est comme ça qu'elles se surnomment. Charline Picon, quatrième jeu, championne olympique, vice-championne olympique en planche à voile avec Sarah Steyer, déjà trois participations au jeu. C'est le choix de l'expérience.
En tout cas, elles ont énormément d'expérience. Elles ont un potentiel incroyable. Charline connaît le chemin pour monter sur la boîte, comme on dit, pour finir sur le podium. C'est pas seulement ce choix-là, hein, puisque donc notre système de sélection était basé sur différentes étapes. D'abord une phase de candidature, donc les athlètes candidataient pour représenter la France aux Jeux. Le comité de sélection composé du président, du directeur de l'équipe de France et moi-même en tant que directeur technique national validait ou pas ces candidatures. À l'issue de cette phase-là, les athlètes recevaient la liste. Cette fois, il y en avait plusieurs des compétitions sur lesquelles il fallait performer. Alors en gros, c'était 4 ou 5 compétitions suivant les séries. Et ce qu'on avait demandé, c'était qu'il y ait de la performance sur ces épreuves. Et donc, effectivement, Sarah et Charline ont aussi montré sur certaines de ces épreuves une capacité à aller chercher une place dans les 10 premières. Et évidemment, aux Jeux Olympiques, ce que disait John est totalement vrai. Hein, on n'est pas là pour participer. C'était le fameux adage de Pierre de Coubertin, l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Ben, je n'y adhère évidemment plus du tout, ou pas du tout. L'important, une fois qu'on est sélectionné, c'est d'aller chercher une médaille, et c'est ce à quoi elles vont s'employer dans les 104 jours exactement qu'il leur reste à elles, puisque elles font partie des séries qui commenceront le 28 juillet.
Guillaume, ce sont tes mots, tu disais tout à l'heure, cruels quand certains vont rester à la maison, même si tu nous expliqueras leur rôle tout à l'heure. Il a quand même fallu trancher. Amélie Rioux, Lara Granier n'en seront pas donc à ces Jeux. On peut comprendre leur déception. Comment on les gère, ces déceptions, parce qu'elle avait terminé 33e des mondiaux, Amélie Rioux 20e. Objectivement, la question se posait.
Oui, bah c'est pour ça que j'ai dit, hein, que c'était cruel. C'est difficile pour les équipages qui ne sont pas retenus. Donc bah d'une part, le directeur de l'équipe de France les appelle pour leur annoncer la nouvelle, même si c'est pas une nouvelle agréable. On préfère que ce soit fait par un être humain plutôt que par un communiqué de presse. Et puis après, on se tient évidemment à la disposition de l'équipage pour construire un projet si elles le souhaitent. Aujourd'hui, elles sont engagées sur la Women America's Cup. Elles font partie de l'équipe de France que la fédération a annoncé en fin d'année 2023. Donc elles sont sur ce projet-là, mais évidemment c'est difficile. Donc le choix, je l'ai expliqué, c'est la performance. On a mesuré quel équipage avait fait le plus de performances sur les épreuves de référence, et puis aussi comment on voyait une forme de potentiel pour aller chercher une médaille sur ces 100 prochains jours. Mais évidemment, pour celles et ceux qui sont pas retenus, c'est difficile. Nous sommes à leur écoute pour construire leur projet 2028 pour Lara et Amélie, mais il n'y a pas qu'elles. Donc on est à l'écoute et on comprend ce moment douloureux. Maintenant, le rôle d'un sélectionneur, quel qu'il soit, c'est justement, comme son nom l'indique, sélectionner. Et c'est pas simple parce que dans certains sports, en foot, il y en a 11 sur le terrain, mais il y en a, je crois, 23 qui sont sur la feuille de match. Nous, c'est pas le cas. Il y en a un seul équipage. C'est dur. Mais notre travail, c'est aussi de se tourner vers les 14 et de les préparer le mieux possible pour aller briller cet été.
John, comment on fait pour rebondir? Tu parlais tout à l'heure d'Erwan et Clément, deux déçus des Jeux de Tokyo. Facile de dire tout de suite, allez, on se sert de ça pour penser à ce qui va se passer dans 4 ans?
Oui, clairement, je pense que c'est un moteur. Hein. Pour ma part, j'avais été remplaçant pour les Jeux de Pékin en 2008. Et je me suis dit, Et je veux pas revivre ça. Et j'ai mis en place tout ce que je pouvais pour pouvoir réussir à me qualifier pour les Jeux de Londres en 2012, quelques années plus tard. Et je pense que clairement, dans le cas de Clément et Erwan, ça a été certainement un des éléments qui leur a permis de performer et de se dépasser pour pouvoir être aujourd'hui les représentants français. Et je pense que pour Amélie et Lara et toutes celles qui n'ont pas été sélectionnées, elles vont pouvoir s'appuyer sur ça pour pouvoir construire un nouveau projet ambitieux pour Los Angeles 2028.
Parce que on regarde devant, mais le court terme pour ceux qui, malheureusement, pour eux ou elles ne sont pas sélectionnés, vont rester sur le pont, hein, partenaires d'entraînement, ils vont continuer à rester sur l'eau.
Alors pas obligatoirement, hein, puisque à partir du moment où la sélection est annoncée, le directeur de l'équipe de France réunit les sélectionnés et l'entraîneur, et un plan de préparation est établi. Et effectivement, il peut y avoir des partenaires. C'est le cas pour Nicolas Goyard qui a jusqu'à 3 partenaires. Mais dans d'autres séries, on n'est pas forcément partenaire, parce que si effectivement la blessure, la déception est trop forte, certains équipages décident de faire une pause, voire d'arrêter, et annoncent potentiellement clairement qu'ils sont pas partenaires. Donc le partenaire, c'est quelqu'un qui doit être totalement dévolu à la cause de la préparation du sélectionné, et donc faut être prêt à ça.
John, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais dire que les partenaires ont un rôle fondamental pour aller chercher la médaille. C'est souvent en fait dans cette alchimie et cette synergie qui continue à évoluer sur les semaines et les mois qui précèdent les Jeux. C'est extrêmement important parce que quand on est sélectionné, rapidement on se retrouve un peu seul. Et si on a la chance d'avoir autour de nous une équipe qui permet de maintenir ce niveau d'émulation, de challenge au quotidien, je pense que c'est un atout vraiment très fort pour pouvoir avoir la chance de remporter des médailles ensuite.
On continue notre tour de l'équipe de France et de cette sélection annoncée aujourd'hui à Marseille, les Français qui ont brillé à Palma. On le disait, on peut citer Camille Lecointre, Jérémy Mion, encore au rendez-vous au trophée Princesse Sophia. Forme olympique, c'est le terme qui convient pour eux, Guillaume ?
Oui, ben ils ont été un petit peu piqués parce que sur ce même plan d'eau, ils n'avaient fait que, alors il faut mettre des guillemets à que, sixième d'un championnat du monde. Pourquoi il faut mettre des guillemets ? Parce que c'est toujours important de rappeler que faire dans le top 10 d'un championnat du monde, c'est très difficile. Ils avaient fait sixième, ce qui est en soi une bonne performance. Malheureusement, l'histoire ne retient que les podiums et encore plus particulièrement les titres. Donc notre travail, c'est ça, mais c'est important de rappeler que c'est des bonnes performances. Et donc oui, ils avaient été un petit peu piqués parce que évidemment sixième ça leur suffisait pas, et donc ils ont continué à travailler, et là sur cette régate ils sont revenus à leur meilleur niveau. Ils battent d'un point le champion du monde espagnol. Alors ça reste que une coupe du monde, mais c'est bien, ils sont là, ils vont se battre, ils aiment ce plan d'eau, ils connaissent ce plan d'eau, et ils ont très très envie d'aller chercher cette médaille ensemble.
À tout moment, John, tu nous arrêtes, hein, pour ajouter quelque chose. Ta connaissance, les anecdotes, tu les as vues récemment? Que t'ont-ils raconté à la suite de ce trophée à Palma?
Je sais que historiquement, le 470 français est toujours très très bon à Palma. C'est vraiment une régate qu'ils affectionnent particulièrement. Ils sont souvent aux avant-postes. Et c'est vrai que ça faisait plaisir de voir Camille et Jérémy gagner de nouveau là-bas, parce que à chaque fois qu'on remporte une régate, on marque un petit peu les esprits des adversaires, et c'est très important pour commencer à prendre tranquillement l'ascendant psychologique en vue des Jeux qui vont arriver.
Ouais, c'est très important. Bah justement, je rebondis sur ça, sur l'ascendant psychologique. C'est très important ce que dit John, parce qu'effectivement, être craint de son adversaire, de ses adversaires, ça ouvre des possibilités. Les gens vont moins venir se frotter à toi au départ. On est regardé un peu avec crainte, et de réussir à asseoir ça, d'être dans une phase ascendante sur ces dernières compétitions, c'est vraiment un point essentiel.
Jusqu'à, alors là, c'est l'ascendant psychologique, mais John, tu as des exemples d'intox avant des épreuves aussi importantes au jeu, par exemple ? On va pas se frotter, disait Guillaume. D'autres marins, d'autres pays qui viendraient quand même se frotter pour essayer de déstabiliser. Des souvenirs en particulier ?
Oui, bien sûr, avant les Jeux, il y en a plein. Hein. On sait, par exemple, quand on a été préparer les Jeux de Londres, Guillaume, tu t'en souviens très bien, les Anglais nous avaient mis des bâtons dans les roues. C'était toute une histoire pour pouvoir accéder au plan d'eau. Ils avaient trouvé le moyen de cadenasser quasiment la marina. Donc ça fait partie des choses qui permettent de mettre un peu de pression sur les adversaires.
C'est un mot anglais, fair play, pourtant. Hein.
Oui, c'est inventé pour les autres.
Et donc, ça ne vous a pas empêché de briller. Et toi, ta médaille de bronze, on le rappelait en fin, en 2012, avec Nicolas Goyard en argent, Jean-Baptiste Bernaz en bronze également, lors de cette dernière compétition. Il va falloir se remettre du jus des pensées, même si ils ont pris l'ascendant. Est-ce que les Français, justement, ont laissé plus de jus que d'autres?
Non, ça j'y crois pas du tout. JB, il a deux grands objectifs dans sa carrière. Mais John connaît très très bien JB, il pourrait en parler encore mieux que moi. Il a deux grands objectifs, c'est d'être champion du monde et de rapporter une médaille olympique. Champion du monde, c'est fait, c'est coché, c'était il y a 2 ans. Il a été champion du monde d'Ilka 7 au Mexique en 2022. Et en fait, depuis, il n'était pas remonté sur un podium. Et c'était très important pour lui de retrouver cette confiance. Pareil, en début d'année, il a fait un championnat du monde où il a fait 6e ou 7e. Du coup, il était pareil, un peu piqué. Quand je dis pareil, je pense à Camille et Jérémy dont on vient de parler. Et c'était important pour lui de retrouver le chemin du podium qu'il connaît. JB, il est incroyable de régularité dans sa performance dans les 10 premiers. C'est quelqu'un qui sort très rarement, exceptionnellement des 10 premiers, et qui monte aussi un petit peu plus rarement sur le podium. L'année dernière, sur les 2 épreuves de référence, voilà, il a fait 4, 6. Donc c'est très important qu'il se rassure, qu'il voit, qu'il montre à ses adversaires qu'il est capable. Il y a notamment un Anglais et un Australien qui seront des grands rivaux pour le podium cet été.
JB, alors sont ses 5e jeux, hein, c'est ça, John?
Oui, absolument, c'est l'homme aux 5 Jeux Olympiques.
Ça compte.
Ça compte, effectivement, et c'est vrai qu'il court après cette médaille depuis tellement d'années. Mais moi, je suis très impressionné par sa persévérance, sa pugnacité et son envie, elle n'a pas changé. Je le connais depuis qu'on est tout petit, on a navigué toujours ensemble, il a toujours été habité par ce rêve. Et même aujourd'hui, après toutes ces Olympiades, il a la même envie d'aller performer pendant les Jeux. Et je sais si avec quel sérieux il est en train de préparer ses Jeux supplémentaires à la maison. Et je pense qu'il peut nous sortir une très très belle surprise cet été.
Qu'est-ce qui fait que ce sera cette fois-là la bonne?
Il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il est dans son jardin. Hein. C'est la Méditerranée. Hein. Lui, c'est un véritable sudiste. Il adore les conditions un petit peu aléatoires et changeantes que peuvent proposer le plan d'eau de Marseille. Il a aussi une énorme capacité d'adaptation et il est performant dans tous les domaines du jeu. Et ça, c'est vraiment des points qui sont très, très importants pour pouvoir être performant pendant les Jeux cet été. Après, l'ILCA, comme ça s'appelle aujourd'hui, c'est une discipline où la concurrence est extrêmement rude parce que c'est un bateau qui est représenté sur l'ensemble de la planète et il y a énormément de compétitions. Ils sont peut-être une quinzaine à pouvoir aller chercher une place sur le podium, donc ça va être assez rude. Mais l'idée, c'est de faire un peu moins d'erreurs que les autres, et JB sait très bien le faire.
L'ILCA 7, pour les puristes, comme tu disais, ex-laser pour le dériveur chez les hommes. Et ILCA 6, Luis Cervera aussi, une autre sudiste, Guillaume Mandelieu.
Eh oui, Louise, récente première sélectionnée en fin janvier, une de nos jeunes, la fougue de la jeunesse, l'envie de réussir. Une fois cette sélection en poche, elle a fait 3e d'un championnat d'Europe où il y avait peut-être un tout petit peu moins de concurrence que d'habitude. Et là, Palma, où tout le monde était revenu, tout le monde était à fond, elle a gagné la medal race, elle a fait des très belle chose pendant cette compétition et elle est allée chercher une prometteuse 5e place. Donc peut-être pour paraphraser ce que vient de dire John, pareil, elle c'est une enfant de la Méditerranée, elle aime ces conditions estivales que peuvent proposer les plans d'eau méditerranéens et particulièrement Marseille. Donc elle est outsider, hein. Elle est là pour faire ces Jeux Olympiques et non pas pour en être spectatrice.
Quel est ton rôle, le rôle du directeur de l'équipe de France? Comment ça fonctionne? Vous connaissez l'expression cliché, le groupe vit bien dans d'autres sports collectifs, pour que justement l'amalgame se fasse entre ces différentes générations. On a fait le grand écart là entre JB et Louise.
Mais alors moi, je suis plus directeur de l'équipe de France maintenant.
Justement, mais toi, ou en tant que DTN, ou le directeur, comment fonctionner avec les entraîneurs?
Alors, le directeur de l'équipe de France, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui fait que cette mayonnaise prend. En tant que DTN, je l'accompagne dans ce rôle-là. Donc, dans les prochains jours, demain, on part faire un stage de cohésion. Tous les sélectionnés, tout le staff, tous les entraîneurs, donc en gros, toutes les personnes qui vont vivre l'histoire des Jeux Olympiques vont passer finalement 15 jours ensemble, puisque on va faire 4 jours de stage et dans la foulée, on va partir à Hyères pour notre fameuse semaine olympique. Et donc, le groupe va vivre ensemble, va apprendre à se connaître. Alors, pour beaucoup, on a déjà fait le test event ensemble l'année dernière, on s'entraîne régulièrement, il y a des gens qui ont 5-6 Jeux Olympiques ensemble, mais il y en a des plus jeunes, et donc c'est important de les embarquer, c'est important que tout le monde apprenne à se connaître, apprenne à connaître les différentes ressources, ou peaufine leur connaissance des différentes ressources d'une équipe de France, du batelier au kinésithérapeute, au médecin, au logisticien. Il y a vraiment le météorologue, bien sûr, l'ingénieur qui va faire avancer les bateaux plus vite. Donc, on a vraiment une équipe au service du couple entraîneur-entraîné pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et c'est important de passer des moments formels, bien sûr, mais aussi informels pour apprendre à mieux se connaître et avoir envie ensemble d'aller faire une performance extraordinaire.
John, qu'est-ce que les uns peuvent apporter aux autres, les plus expérimentés, mais ça peut aller dans les deux sens. Concrètement, à quel souvenir penses-tu ?
Moi, j'ai un souvenir qui me vient particulièrement en tête. C'était le premier jour des Jeux à Londres. J'ai reçu un coup de téléphone de Pascal Rambaud, qui était un ancien médaillé en bronze, en star, sur les Jeux d'Athènes. Et il m'a simplement dit ce jour-là, tu sais, navigue comme tu sais faire, essaye pas de faire plus. Et effectivement, à ce moment-là, ça m'a beaucoup parlé. Et je pense que d'avoir la possibilité d'échanger avec des sportifs qui ont déjà vécu les Jeux, quand on est un petit nouveau qui arrive dans l'aventure, bah, ça peut permettre des fois de baisser un petit peu le niveau de stress et aussi de pouvoir aider à se concentrer plus facilement sur l'objectif et de finalement essayer de simplement faire ce qu'on sait faire.
Il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est Hélène Noesmoen. Il y a eu du suspense pour elle, mal classée à Lanzarote par exemple, plus largement quand même parce qu'elle avait... très bien démarré, elle avait dominé ces derniers mois, c'est un exemple d'anticipation, elle s'était mise au kite foil avant la concurrence, si on reprend tout ce qui s'est fait ces dernières années, le travail de la fédération également.
Oui, bah Hélène, très très rapidement, elle a basculé sur ce support volant, elle a largement dominé en début d'Olympiade, elle a une période un petit peu plus difficile depuis quelques mois, mais là il y a une très belle équipe qui s'est construite autour d'elle, composée de garçons et de filles, qui vont lui faire retrouver son meilleur niveau. Voilà, Hélène, l'année dernière, elle a fait quatrième du championnat d'Europe, c'était il y a même pas un an, donc clairement, elle est capable d'aller accrocher ce top 10. Et puis, en planche à voile, il y a un système de finale qui fait que le dernier jour, à partir du moment où vous êtes dans le top 10, tout est possible puisque c'est trois manches sèches, un quart de finale, une demi-finale et une finale. Et en faisant dans les deux premiers des deux premières courses, le quart et la demi, vous êtes qualifié en finale à trois. Et là, vous pouvez déjà vous avez une médaille et puis surtout vous pouvez aller chercher l'or. Donc voilà, Hélène, elle va travailler pour retrouver. Elle a déjà retrouvé en grande partie ses qualités de vitesse qui font toute sa force.
John, comment tu expliques cette évolution, cette inconstance dans les résultats?
Je pense, comme l'a dit Guillaume, c'est très difficile de rester au top niveau sur l'ensemble d'une Olympiade. Hein. Gagner une fois, c'est bien, mais rester toujours au top, 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 c'est vraiment très, très difficile. Et je pense qu'aussi la concurrence, elle a monté de niveau au fur et à mesure de l'Olympiade. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation qui n'est pas forcément très facile à vivre, où elle voyait sans arrêt les filles petit à petit grignoter du terrain et revenir. Et je pense que d'avoir vécu ça pendant l'Olympiade, ça peut certainement lui donner beaucoup de force pour... rester concentré jusqu'au bout de l'épreuve et aller chercher cette médaille.
Ah, puisque tu en parles, John, je vais poser la question à Guillaume. Question que tu aimes particulièrement. Objectif, combien de médailles ?
J'ai dit ce matin qu'on avait une équipe de France qui avait jamais été aussi forte, en tout cas de mon souvenir, puisque je participe aux Jeux dans l'encadrement de l'équipe de France depuis 2004. Je crois qu'on a un potentiel très fort. Encore une fois, le potentiel, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est de le réaliser, ce potentiel. Nous, notre meilleure performance, c'est 3 médailles, 3 sur 10, ce qui est un très très bon résultat. Hein. Si on compare des disciplines comme l'athlétisme ou la natation, qui ont 50 possibilités de médailles, même un peu plus, parce qu'ils peuvent qualifier plusieurs compétiteurs par série. Si tous les sports faisaient 30% de leur potentiel, on serait loin devant. Donc, 3, c'est très, très bien. Et je crois qu'on a le potentiel de faire mieux que ça. En tout cas, c'est l'objectif qu'on peut se fixer collectivement. Une fois que j'ai dit ça, je souhaite pas annoncer de chiffres. Pourquoi je veux pas faire ça? Parce qu'en fait, si on dit... 4 ou 5. Ça veut dire que certains athlètes de l'équipe de France vont dire « Ah, le DTN, il a dit 4. Moi, est-ce que je suis plutôt dans les 4 ou est-ce que je suis plutôt dans les 6 ?» Et moi, ce que je veux, c'est que personne se limite. C'est vivre les Jeux Olympiques, faire les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut combattre jusqu'au bout. Ils ont tous un potentiel. Certains sont favoris, d'autres sont outsiders. Mais encore une fois, c'est qu'un potentiel. Et le but, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour aller chercher cette médaille cet été.
Bon, donc le message s'adresse aux sélectionnés, en fait, en parlant de ce 30% de médaille. Est-ce qu'il est, John, est-ce qu'il est langue de bois, Guillaume, en disant ça?
Non, Guillaume connaît très bien notre sport. Il sait très bien qu'on ne maîtrise pas tous les éléments. Effectivement, on peut arriver préparé de la meilleure des manières possibles. Et pourtant, des fois, ça ne va pas se passer exactement comme on l'a prévu. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'être plutôt dans cette dynamique, de donner le maximum et d'essayer de faire tout ce qu'on est en notre pouvoir pour aller chercher les médailles. Mais c'est plutôt ça qui est intéressant de garder à l'esprit jusqu'au bout de la compétition et après de compter à la fin de l'épreuve tous les résultats qui ont pu être faits plutôt que de se focaliser sur un objectif de performance avec un nombre de médailles qui finalement n'a pas vraiment de sens parce que, comme on le sait très bien, la glorieuse incertitude et du sport peut permettre de voir des choses extraordinaires arriver. Donc, je pense que être dans une dynamique de donner le meilleur de soi-même jusqu'au bout, ça me paraît être une stratégie très intéressante.
Mais l'approche n'est pas la même. L'objectif de performance pour la médaille, la quête ultime, mais avant, c'était la performance pour la sélection. Dans l'approche en tant qu'athlète, qu'est-ce que ça change?
Quand on est un athlète, ça change parce qu'en fait, au début, on se bat d'abord contre les partenaires de l'équipe de France parce qu'il faut aller chercher la sélection par rapport à eux. Là, la médaille, maintenant, il va falloir qu'ils se battent par rapport à l'ensemble des concurrents et c'est quelque chose qui peut être aussi des fois appréhendé d'une manière un petit peu différente. Et je pense que là, il faut bien qu'ils gardent à l'esprit qu'ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes, mais que il y a aussi la concurrence qui a cette idée en tête et qui va venir essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour aller chercher cette médaille. Donc, c'est vraiment un combat à la fois contre soi-même, mais aussi contre les autres.
Guillaume, comment on opère le switch, s'il n'est pas déjà opéré?
Oui, voilà, je crois que clairement, il est opéré à partir du moment où vous avez votre ticket en poche, que justement, avec le directeur de l'équipe de France, vous construisez et votre entraîneur ce plan de bataille pour les 4 ou 3 derniers mois maintenant à chercher à optimiser tout ce qui peut l'être. En même temps, il y a des chantiers qu'on pourra pas ouvrir, qu'on peut plus ouvrir à 104 jours des Jeux et de la première course de voile. Et faut savoir en faire le deuil, donc pas se perdre. Et c'est le rôle de l'entraîneur, c'est le rôle du directeur de l'équipe de France de dire bon, ok, ça, on aurait bien aimé le faire. Maintenant, pour certaines raisons, on n'a pas pu le faire. Moi, je pense qu'il faut se focaliser sur travailler sur ses points forts. Souvent, on est parfois un petit peu sur ses points faibles. Moi, je crois que à 100 jours des Jeux, ce qui est important, c'est de travailler sur la confiance, de travailler sur ses points forts. Ok, je vais vite dans le médium. Et ben, je vais continuer de travailler ce point-là pour être vraiment imbattable. Et donc, en même temps, on travaille de la technique, mais en fait, on travaille la confiance, on se donne confiance sur ses points forts.
John, tu parlais tout à l'heure de la pression d'être le favori, mais la pression d'être à domicile. Là encore, c'est autre chose.
Je pense que c'est, oui, c'est très très différent, effectivement. Mais de toute façon, les Jeux Olympiques, c'est toujours la pression maximale. Hein. Quand on fait de la voile olympique, on ne vit que pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est déjà le paroxysme. Effectivement, là, ils vont avoir les Jeux à la maison. Je pense que plutôt, il faut voir ça comme une force et avoir une formidable énergie de l'ensemble de la population française qui va être là pour les supporter. Ça va leur permettre d'avoir peut-être ce petit supplément d'âme qui, dans les moments difficiles, va leur permettre de passer le cap pour aller plus loin.
Guillaume, ils connaissent le plan d'eau par cœur, au vent, au courant presse, un sacré avantage par rapport à ceux qui sont venus s'entraîner de plus loin.
Oui, oui, clairement, jouer à domicile d'un point de vue technique, c'est un véritable avantage. On bénéficie d'un pôle extraordinaire, donc un bâtiment dédié à la performance. On a une chance incroyable, c'est que habituellement on touche l'héritage après le fait générateur, qui est en l'occurrence les Jeux Olympiques, et cette fois on a touché une très très belle avance sur héritage puisqu'on bénéficie de cette structure depuis maintenant plus d'une année. Fin février l'année dernière, nous avons intégré ce nouveau bâtiment qui est totalement dédié à la performance, qui nous donne un accès sur le plan d'eau direct. On peut aller s'entraîner très facilement. Donc effectivement, l'équipe de France connaît mieux le plan d'eau que ses adversaires, et c'est très très important de porter ce message, parce que je pense que l'été dernier, ça a mis un petit coup au moral de nos adversaires. Tous les éléments objectifs et subjectifs sont importants en voile.
Être à la maison, donc au propre comme au figuré, avec un lieu aussi, une maison pour pouvoir s'extraire un petit peu de tout ça de temps en temps. Comment vous allez vous organiser? Comment vont-ils s'organiser aux marins?
Pendant les Jeux Olympiques, les athlètes seront au village. Le village, c'est l'hôtel NH qui est dans la marina. Donc là, côté athlète expérience, c'est exceptionnel, hein, une unité de lieu incroyable. Donc nos 14 athlètes seront là. On a aussi une base arrière qui est juste en face de la marina, où on a une maison avec un très grand jardin dans lequel seront dispensés les soins, la récupération.
Pour respirer aussi.
Ou attendre quand il y aura des petites phases d'attente. Le staff sera logé un petit peu plus loin. L'idée, c'est que vraiment, Philippe Mourniac appelle tout cet endroit la maison de l'équipe de France, et fait en sorte vraiment que chaque athlète se sente vraiment chez lui, ici à Marseille, et aime cette ville, se sente bien pour y performer cet été.
Tu avais besoin de couper parfois pendant les Jeux, John ?
Oui, effectivement, les Jeux, ça peut être une épreuve qui est un petit peu longue. C'est très long, surtout au niveau mental, parce qu'en fait, d'une journée sur l'autre, il faut, comme le disait très bien Guillaume tout à l'heure, se remotiver, se remettre en ordre de marche et aller chercher de nouveau le maximum de performance possible. Et c'est vrai que des fois, d'une journée, quand ça se passe pas très bien, le soir, ça peut être un petit peu difficile. Et d'avoir des endroits où des sas de, où on peut un peu souffler, se régénérer, se ressourcer, c'est très, très important pour pouvoir rester jusqu'au bout de la compétition à concentrer sur l'objectif.
Je reviens quand même sur le fait de connaître à merveille le plan d'eau. Les étrangers, les internationaux ne nous écoutent pas. Il y a un exemple que vous pouvez nous donner, ou en tout cas qu'on puisse comprendre à quoi ça correspond, un vent, un courant, le fait de pouvoir anticiper?
Oui, nous, on a accès à ce plan d'eau en permanence. Donc, effectivement, on a passé notre météorologue David Lanier a passé des heures à mesurer les vents. On a aussi des logiciels sur lesquels on fait tourner les effets de site, les courants de vent, et aussi cette fois les courants d'eau. Donc on a modélisé tout ça, et puis on passe du temps à vérifier si nos modèles s'avèrent ou pas. Souvent ils s'avèrent, donc c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, on modélise ce plan d'eau un maximum, quelle que soit la direction et l'intensité du vent.
Allez, qu'un conseil, John, pour les athlètes français, pour les marins français, d'ici les Jeux, et ton souhait, ton idéal en vue des Jeux, raconte-nous, et s'ils t'écoutaient, tu leur dirais quoi?
Alors, le seul conseil que je peux vraiment leur donner, c'est de se battre jusqu'au bout, de se battre vraiment pour chaque place, de pas se relâcher une seule fois pendant les manches, même si des fois ils sont derrière et qu'ils peuvent faire une manche de 18 au lieu d'une manche de 20, et ce sera toujours mieux, parce que des fois, c'est ce petit point à la fin qui peut faire toute la différence. Donc vraiment le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est de se battre comme des morts de faim, comme on dit, sur chaque manche, sur chaque point, parce que à la fin c'est ça qui peut faire toute la différence. Puis après, je leur souhaite un maximum de médailles, et j'espère que j'aurai la chance de pouvoir me casser un petit peu la voix en faisant les commentaires, et voir les copains gagner, ça fait toujours très très plaisir. Donc j'espère qu'on aura tous l'occasion de partager cette fête.
Mais on n'en doute pas, c'est ce qu'on te souhaite, John, c'est ce qu'on souhaite aux marins de l'équipe de France également. On parlait de la semaine olympique à hier, c'est le premier rassemblement donc pour cette équipe de France. Guillaume, que faut-il en attendre?
Ça va être, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, un moment de préparation, de vivre ensemble, d'apprendre ou de recaler nos routines, qu'est-ce que fait le météorologue, comment on s'organise avec les kinés, avec le médecin, aussi appréhender les règles aux Jeux Olympiques. Bon, on est évidemment un sport de règles, et aux Jeux Olympiques, il y en a encore plus. Donc travailler avec notre rule advisor, Philippe Gomez, sur tous ces règlements spécifiques aux Jeux Olympiques. Donc continuer à construire la confiance avec les intervenants, se sentir bien dans le groupe, faire une compétition importante sur un plan d'eau méditerranéen, un plan d'eau qu'on connaît bien, que l'équipe de France affectionne. Donc évidemment, on y va aussi pour gagner.
Et la suite du programme après, quand vont-ils arriver à Marseille pour les Jeux, justement revenir à la maison ?
Alors, le programme, il est toujours un petit peu différencié suivant les séries, puisque au mois de mai, on a encore plusieurs compétitions internationales, en l'occurrence en France, puisque à la Grande Motte, il y aura le championnat du monde des Nacra 17, ainsi que le championnat d'Europe des skiffs, des 49ers hommes et femmes. Il y aura un championnat d'Europe de 470 à Cannes, et puis un championnat du monde de kite ailleurs, donc un programme assez chargé en compétition. Les autres séries seront déjà à Marseille pour s'entraîner, pour l'arrivée de la flamme aussi le 8 mai. Et puis, à partir de la fin mai, on va en tout cas, les 10 disciplines seront en permanence sur Marseille pour peaufiner la préparation finale avec l'arrivée de l'été. Ça compte aussi, hein, la température qui va monter, s'habituer à performer dans la chaleur. C'est quelque chose qui réussit plutôt bien à l'équipe de France. Mais voilà, se réhabituer à être prêt à des grosses chaleurs sèches, probablement à partir de la mi-juillet.
Avant cet instant, ce moment, cette semaine, ces deux semaines olympiques historiques donc, et on vous souhaite les meilleurs, Guillaume, John, toute l'équipe de France, évidemment, toute la Fédération Française de Voile. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
On vous souhaite une bonne semaine olympique, une bonne prépa pour ces Jeux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 161e numéro de Pause Report avec Axel Capron de retour aux commandes. Il sera aussi affûté un marin français avant les Jeux.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt !